11h04, vous êtes dans Trudeau Landry. On en a parlé pour mettre la table au début de l'émission. Excellent reportage hier à Radio-Canada concernant une des conséquences. Encore là, n'ayons pas peur des mots dramatiques de la COVID-19, de la pandémie. Et c'est les diagnostics de cancer qui n'ont pas été faits. Des gens qui auraient dû recevoir au printemps des diagnostics de cancer, mais étant donné que les ressources, les ressources humaines, que les employés, que tout le monde est affairé à lutter contre la pandémie, il y a moins de ressources, entre autres en hématologie, donc moins de diagnostics. On parle de 5 000, c'est pas rien là. 5 000,
c'est catastrophique.
5 000 diagnostics qui n'ont pas été faits au printemps. Parenthèse, ça vient de sortir, le bilan quotidien, 489 nouveaux cas au Québec. Ça vient juste de sortir. Donc ça, c'est les chiffres pour aujourd'hui. Fait qu'on se maintient dans une espèce de moyenne autour de 500 là, depuis quelques jours. Je reviens à notre histoire. Donc 5 000, ça aurait pu être votre frère, votre père, votre soeur, votre conjoint, votre enfant. C'est catastrophique. Et pour en parler, on va les retrouver. Il est le président de l'Association des médecins hématologues et oncologues du Québec, le docteur Martin Champagne. Docteur Champagne, bonjour.
Bonjour.
D'abord, docteur Champagne, parlez-nous de ces chiffres-là. Comment on en arrive à ça? Je pense que c'est des chiffres de la santé publique. C'est bel et bien ça qui s'est passé, là. 5 000 diagnostics, donc, qui n'ont pas été faits.
Ben, ce sont des chiffres qui ont été présentés par des hauts fonctionnaires du ministère de la Santé, là, les journalistes ont obtenus. Il y a des données qui sont réelles, donc sur le nombre de chirurgies qui ont été faites, le nombre d'endoscopies, des tests avec des caméras pour aller voir, par exemple, dans l'intestin ou dans la vessie, sur le nombre de biopsies avec diagnostic de cancer. Donc, il y a des chiffres réels, puis il y a des chiffres qui ont aussi été extrapolés. C'est-à-dire qu'au Québec, on s'attend à ce qu'il y ait environ 60 à 65 000 nouveaux cas de cancer par année. De ce nombre-là, il y a environ 10 % des cancers qui sont des cancers asymptomatiques, donc qui sont trouvés par les tests de dépistage essentiellement, que ce soit le programme de mammographie, que ce soit le programme de recherche de sang dans les selles. Alors, donc le gouvernement ou les fonctionnaires qui ont produit ces données-là, à partir du nombre, de la réduction des biopsies, arrive à un total d'environ 5 000 patients qui auraient des cancers et qui n'ont pas été diagnostiqués officiellement à ce jour. En fait, pour la période d'avril à juin. Donc, on n'a pas des chiffres réels actuels.
Docteur Champagne, je sais qu'en tant que médecin, en tant que scientifique, vous êtes habitué de répondre de façon très rationnelle, de façon très factuelle, mais c'est drôle, j'ai envie de vous demander comment vous qualifiez votre état d'esprit. Parce que au printemps, il y a plusieurs de vos collègues qui disaient « Attention, là, on va en échapper, il va y avoir des dommages collatéraux », mais le gouvernement s'entêtait à dire « Non, tout ce qui est urgent est fait, là. Il n'y a pas de problème, tout ce qui est urgent est fait. » Ce message-là ne semblait pas avoir été entendu. Et là, ce que vous craignez, on le voit, là, c'est en train de s'avérer. Comment vous qualifiez votre état d'esprit par rapport à ce qui s'est passé?
Ben, l'inquiétude est grande parce que les gens savent que le cancer, les maladies du cœur, sur une base annuelle, causent plus de décès au Québec que la COVID, malgré l'intensité de la crise qu'on a vécue au printemps. Puis on sait que pour plusieurs de ces maladies-là, le prix à payer va être là pendant des années pour les patients. C'est-à-dire que vous avez des patients qui immédiatement étaient dans une maladie qui était peut-être à visée curative, puis qui là est rendue à visée palliative, donc on est capable de les accompagner, donner une rémission, mais qui sera limitée dans le temps parce que le cancer va finir par revenir et causer le décès du patient. Mais aussi le fait que vous avez perdu des opportunités, le prix à payer va être là pendant des années. Si vous aviez, par exemple, une petite tumeur de 2 cm, si le mot petit cancer existe, là, donc 2 cm, on aurait pu faire une chirurgie seule. Peut-être qu'au moment où vous allez être diagnostiqué dans les prochains mois, votre maladie va être mesurée 4 ou 5 cm, qu'il y aura des maladies localement plus avancées avec une atteinte des ganglions. Et vos chances de guérison, plutôt que d'être de 80%, elles sont peut-être réduites à 65%. C'est-à-dire que là, on fait une chirurgie. Là, on va peut-être être obligé au surplus d'ajouter de la chimiothérapie, de la radiothérapie. Et on sait que dans les prochaines années, votre risque de récidive va être beaucoup plus élevé que si on avait fait une chirurgie avec une tumeur plus localisée. Ce qui fait que pour le patient, il y a un poids moral à porter, à savoir que, bon, ses chances, il y a un risque de maladie qui rechute. Mais aussi, lorsqu'il y aura une rechute, s'il y a une rechute, une intensité de traitement, un fardeau à la société pour ce qui est des coûts et des services de santé. Alors, le prix à payer va être immense puis pendant longtemps, malheureusement.
Pourquoi c'est comme ça? Est-ce qu'il y a une partie de ça qui est inévitable? Est-ce que c'était totalement inévitable? Ou est-ce qu'il y a de la mauvaise gestion aussi dans ça qui doit être pointé du doigt, là?
Ben, je pense qu'il faut apprendre. D'abord, le premier message, là, c'est il faut pas taxer le système de santé. Vous faisiez état des nouveaux cas de COVID. Alors, il faut, d'abord, au niveau de la population, prenons des précautions extrêmes. C'est un ennemi qui nous menace, qui est sournois. Ça, je pense que le message a été véhiculé, mais il faut pas baisser la garde. Donc, première des choses, si on fait de la prévention, on va diminuer le fardeau à terme. Je pense que pour ce qui est des institutions du gouvernement, on doit apprendre de la première phase de la COVID. Il faut préserver les équipes. Une équipe, par exemple, de chirurgie. En chirurgie, on prend de ORL, donc la tête et le cou, qui opère des cancers. C'est une équipe hautement technique. On peut pas prendre ces gens-là, les exposer à la COVID en les envoyant faire des tests, puis qu'ils reviennent ensuite soigner des patients avec cancer. Parce que c'est une expertise qui est pas remplaçable immédiatement. Alors, je pense que on a fait un faux pas lors de la première crise à vouloir envoyer du personnel ultra spécialisé dans des unités de soins généraux. Alors ça, il faut préserver les équipes. D'autre part, on sait que les patients, malheureusement, ont très peur de la COVID, malgré les efforts qui ont été déployés dans les hôpitaux pour leur assurer un environnement sécuritaire. Il faut que, institution par institution, on fasse des zones froides qui permettent l'investigation, le bilan. Si on soupçonne que vous avez un cancer, donc que vous puissiez venir dans un endroit où on sait qu'il n'y a pas de patients avec COVID, que ce soit pour les tests d'imagerie, pour les biopsies, tout ça. Présentement, il y a encore environ presque 15% des patients qui ne se présentent pas dans les rendez-vous médicaux auprès des spécialistes. Alors, les gens ont peur de la COVID malgré les efforts qui sont mis. Puis, je comprends que la COVID, c'est épeurant, mais sauf qu'il faut qu'on s'assure dans les différentes institutions que tout est mis en place pour que la population se sente en sécurité. Et leur ennemi, si l'ennemi immédiat, c'est la COVID à court terme, sur le long terme, le cancer est un bien pire ennemi. Alors, donc on consacre tous les efforts pour assurer un environnement protégé aux patients.
Dans tout ce que vous dites, là, ce qu'on doit mettre en place, les erreurs qui sont à ne pas refaire, est-ce que vous sentez que dans le plan qui a été établi par le gouvernement pour la deuxième vague, est-ce qu'on a corrigé ces défauts-là ou vous avez encore certaines inquiétudes?
Ben, est-ce qu'on a un plan? Je vous dirais, pour moi, il y a encore des zones nébuleuses, puis sur le terrain, on sent plus l'urgence de la même façon. On entend parler des difficultés de personnel, on voit la crise qui se dessine dans certaines urgences, dans certains soins intensifs, puis on n'a pas l'impression que les choses ont été mises en place pour pallier à tout ça. Puis même au cours de l'été, prenez l'exemple où on est passé de 75 000 chirurgies globales en juin à plus de 92 000 chirurgies en attente. Donc, on n'a même pas comblé du retard pendant la période d'accalmie. On a accumulé du retard. Alors, moi, je trouve pas que c'est rassurant.
Mais comment, vous parlez de mettre les choses en place. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on peut pas, inventer des salles d'opération. On peut pas engager comme ça des médecins spécialistes et du personnel médical. C'est quoi la solution à court terme?
Ben, il faut peut-être trouver des solutions. Je vais vous donner un exemple très simple. On fait état des cliniques extérieures pour faire des chirurgies, mais peut-être qu'on peut faire la même chose pour un patient qui a un bilan de cancer, par exemple. Si on soupçonne que vous avez un cancer du côlon, peut-être que la test doit pas être fait à l'hôpital, mais les tests d'imagerie, la coloscopie, pourraient être faites dans une clinique extérieure
au
à l'hôpital,
privé.
Dans un lieu décollé. J'ai pas dit au privé nécessairement. Mais il faut penser en dehors de la structure actuelle des hôpitaux. Il faut penser out of the box, comme on dit les Anglais. Donc, changer un peu le mode de fonctionnement.
Mais c'est
il faut
où,
sortir
ça?
Du carcan.
Moi, je suis pas 100% familier. Alors, c'est quoi ces cliniques-là? Vous dites pas nécessairement du privé. C'est quoi exactement?
Ben non, mais alors peut-être que l'hôpital doit prendre des locaux à l'extérieur de l'hôpital, doit donc instaurer, ça peut se faire très rapidement ce genre de choses-là, pas pour tout, mais pour certaines choses, ça peut se faire, donc il peut avoir des... Effectivement, on peut faire appel au privé aussi, mais il faut pas penser dans le mode conventionnel où on avait un secteur qui était privé, puis un secteur qui était hospitalier, il faut peut-être prendre des contrats, enfin, les solutions vont être locales. La réalité que vous avez à Lévis ou au centre-ville de Québec est différente de celle de Montréal puis de l'infrastructure. Alors, je pense que présentement, malheureusement, on a un ministère ultra centralisé, des immenses structures, des CIUS, les CIS qui sont ultra centralisés, avec des administrateurs qui sont loin de la réalité du terrain. Alors, il faut rapprocher des différents intervenants, puis que les gens donc proposent des solutions locales, mais il faut agir rapidement pour répondre aux besoins.
Je veux pas être alarmiste, mais il y a de quoi être inquiet, là, parce que j'ai l'impression que le 5000 cas potentiel, c'est un début, puis l'autre chiffre qui moi, m'inquiète beaucoup, c'est le 92 000 chirurgies qui ont été reportées, qui sont en attente, alors que là, déjà, on nous dit, ouf, on approche du bris de service dans certains endroits, on envoie des infirmières faire du dépistage plutôt que d'être dans les hôpitaux, d'être dans les salles d'opération. J'ai une réelle crainte que notre capacité soit encore réduite à faire ces interventions-là et que le nombre de 5000 ce soit un plancher, là.
Alors, je pense qu'on a tous raison d'avoir peur, puis la solution première passe par notre responsabilisation à tous et chacun d'être archi prudent dans toutes nos interventions et de se demander si ce qu'on fait est quelque chose qui est compatible avec la nature de l'épidémie actuelle. Mmh. Alors ça, on a tous une responsabilité là-dedans. Puis, au niveau hospitalier, ben effectivement, là, il y a des solutions administratives qu'il faut mettre en place rapidement.
Sauf que si rien change, Dr Champagne, ce que je comprends, c'est que cet automne, on risque d'avoir des milliers de diagnostics qui sont pas posés, puis des chirurgies retardées, puis des traitements retardés. Là. On s'en va vers
ça. Présentement, là, on a juste un faible aperçu d'une épidémie qui va nous attaquer de front puis solidement. Alors, présentement, là, je pense que c'est pas vain ce que la santé publique puis le gouvernement nous disent, là. Faites attention, soyez prudents. Je pense que ce qui nous guette au bout du chemin, pourrait être catastrophique. Je veux pas être alarmiste comme vous le soulignez, là, mais je pense que c'est vraiment une menace importante pour notre société, oui.
Dernière question en ce qui me concerne, Dr Champagne, parce que je sais, bon, mes collègues dans l'émission du matin en ont parlé, puis je vois quelqu'un sur notre messagerie aussi qui pose la question. Des fois, il y a des solutions qui semblent être évidentes, mais il nous manque des éléments là pour mesurer la complexité. Certaines personnes disent, pourquoi, par exemple, on fait pas des hôpitaux dédiés? C'est-à-dire, on va avoir un hôpital, ça va être que des cas de cancer, que des chirurgies qu'on va faire, d'autres hôpitaux, que des cas de COVID. J'imagine que c'est pas si simple que ça, là.
Bon, c'est peut-être pas si simple que ça, mais moi, j'ai proposé cette solution-là, effectivement, il y a déjà plusieurs mois, là, puis je pense qu'on est plusieurs à penser que c'est possible de faire ça. Il faut savoir que les tests de dépistage, un test de dépistage négatif n'est pas garant absolu, donc, de la protection, mais effectivement, je pense qu'il y a lieu de penser à avoir des zones de grande étanchéité, c'est ce à quoi je fais référence quand je vous dis qu'il faut penser en dehors du modèle actuel, puis peut-être se proposer des modes. Alors, effectivement, peut-être qu'on peut avoir un hôpital qui est dédié ou une clinique qui est dédiée, par exemple, à administrer des chimiothérapies en dehors du site hospitalier. Alors, c'est ce genre de choses auxquelles il faut songer, effectivement. Mais il faut avoir des corridors de grande protection. Je suis tout à fait d'accord avec cette proposition-là. Ça fait partie des solutions à envisager.
Merci beaucoup de nous avoir parlé, Dr Champagne.
Parfait, merci, bonne journée.
Au revoir. Dr Martin Champagne, président de l'Association des médecins hématologues et oncologues du Québec. C'est-tu son télévertisseur?
Qui n'était pas dans un sous-marin.
Non, c'est ça, c'est son télévertisseur.
Oui, je pense que c'est la fameuse pagette, là.
Parce que les médecins spécialistes ont encore des télévertisseurs. Il y a une de mes amies qui est ORL, c'est le télévertisseur toute la fin de semaine.
Ma blonde s'est départie de sa pagette il y a deux mois de ça. Oui. Là, il y a une application sur leur téléphone qui fait office de pagette, que même si ton téléphone est fermé, ça va buzzer.
Ça buzz pareil, peu importe où tu es dans l'hôpital.
Mais jusqu'à il y a deux, trois mois, c'était encore la bonne vieille pagette. Hey, Jérôme, j'écoute
ça, je fais des blagues, mais c'est très, très sérieux, là.
Il y a un constat qui me semble évident. Puis le but, c'est pas de ressasser le passé, mais c'est de se servir du passé pour ne pas commettre à nouveau les mêmes erreurs dans le futur. Et de plus en plus, je pense que plus tôt que tard, ça va prendre une commission d'enquête sur ce qui s'est passé. Parce que je peux pas m'empêcher de garder des souvenirs du premier ministre Legault qui varlopait les médecins spécialistes qui n'allaient pas suffisamment en CHSLD, pendant que la ministre McCann, elle, nous disait « Tout est beau, il n'y a pas de problème, Madame la Marquise, les chirurgies urgentes, tout se fait. » Puis je me souviens, on fait des entrevues, tu en as probablement fait toi aussi, il y a des gens qui disaient « Non, non, attention, là, il y a des tests qui se font pas, il y a des gens qui vont avoir une petite tumeur qui finalement va être devenue grosse tumeur, qui va devenir cancer, qu'on pourra pas traiter. » Et là, on le voit, ce ne sont plus que des suppositions, des prédictions ou des craintes. Ça s'est avéré. Il va falloir comprendre qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné.
Je suis d'accord avec toi, sauf qu'une commission d'enquête, Joe, autant je peux être d'accord avec ce que tu dis, ça ne réglera pas le problème là. Parce que on avait déjà un système de santé qui était... donc, l'accès était déjà très difficile. Je parle pas de qualité de soins. À mon avis, la qualité des soins est top-notch au Québec. Les médecins sont bons, personnel infirmier, préposé. Regarde, une fois que tu as accès au système de santé, c'est très, très bien. C'est quasiment 10 sur 10. Mais l'accès était déjà très difficile avant la pandémie. Fait que c'est déjà un système qui était challengé, qui là est encore plus sous pression. Puis effectivement, il faut comprendre, quand on va prendre un peu de recul là-dessus, ça va peut-être être dans quelques années, Joe. Parfait, mais il faut régler le problème là. Puis là, le docteur Champagne nous dit... il faut pratiquer certaines activités médicales à l'extérieur. Tu as compris que le mot privé, il faut pas trop le prononcer quand on lui a posé la question. Mais c'est de trouver des espaces physiques supplémentaires. Ça semble être ça, lui, la solution, à son avis. Mais ça se réglera pas en quelques jours ou en quelques semaines. J'aimerais ça, mais moi, je suis très inquiet pour l'automne. Je veux pas être trop alarmiste, là, comme il l'a mentionné. Mais si on a eu 5000 diagnostics, puis là... On parle pas des traitements retardés aussi, puis de toutes sortes de ramifications puis les conséquences néfastes de ça, l'espèce d'effet domino sur bien des patients atteints de cancer. Bien, il faut trouver une solution là, parce qu'il va encore avoir des milliers de personnes qui vont se retrouver avec des vies écourtées ou des décès qui auraient été évités à cause de ça. C'est terrible quand tu penses à ça. Là. Fait qu'il faut arrêter, je pense, de ramener ça constamment à... La COVID, c'est comme une grippe. Comprenez-vous, c'est quoi l'impact de ça? On comprend que l'immense majorité des patients atteints de ça ne mourront pas. Mais s'ils s'en vont congestionner le système de santé parce qu'il faut qu'ils aient des soins, ben ça a aussi un impact sur les traitements de cancer. C'est terrible, cette conséquence-là. Puis tu as raison de parler de la ministre McCann.
Je me souviens de Dr. Francœur, Diane Francœur, la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, qui a été décrite comme étant la mauvaise personne dans tout ça. Puis c'est du quoi je pense qu'elle s'est pas toujours aidée là, par son attitude, par des fois une incapacité à communiquer efficacement. Mais je me souviens de l'entendre dire publiquement, puis l'avoir reçu en entrevue, où elle disait « Nous, on dit au premier ministre, on pense que nos médecins, c'est pas dans les CHSLD qu'il faut qu'ils soient, c'est dans les salles d'opération en train d'opérer le monde. » Ils suppliaient le gouvernement de reprendre les chirurgies au plus sacrant.
Ouais.
Et là, ils se faisaient accuser que c'était juste parce que les chirurgiens voulaient se mettre de l'argent dans les poches, qui étaient chez eux à rien faire, puis qui voulaient pas aller ramasser des coups de souliers dans les CHSLD.
On tombe facilement là-dedans.
Ben, ça se peut-tu qu'il y avait raison de vouloir opérer beaucoup?
Je pense que oui, il y avait
plus,
raison.
Plus.
Ouais, on devrait les écouter, ce monde-là.
Là, ils sont 92 000 à attendre. 92 000, puis la deuxième vague commence. Ça va très bien.
Totalement raison. 11h22, vous écoutez Trudeau-Landry. On fait une courte pause et on revient.